22. Il s'assoupit, assis sur le banc central, le menton posé sur la poitrine, les mains pendantes entre les jambes, pieds nus dans la petite flaque au fond de la barque, et sans doute le Poki l'aurait-il entraîné au-delà de la prochaine étape de cette improbable pérégrination s'il n'avait été réveillé par le mugissement d'une autre sirène de train, venant non pas de la rive cette fois, mais d'en haut, droit devant, et beaucoup plus forte. Ce n'était pas un simple coup de klaxon, mais un « wah » autoritaire qui fit sursauter Luc, si brutalement qu'il faillit basculer à l'arrière de la barque. Il leva les mains dans un geste instinctif pour se protéger, conscient de l'aspect pathétique de cette réaction. Le mugissement fut remplacé par des grincements métalliques et des grondements assourdissants. Luc agrippa les bords de la barque, là où elle se rétrécissait, et regarda devant lui d'un air horrifié, certain qu'il allait être écrabouillé. Ce n'était pas encore vraiment l'aube, mais le ciel avait déjà commencé à s'éclaircir, couvrant d'un voile lustré la rivière, beaucoup plus large maintenant. 500 mètres en aval, un train de marchandises franchissait un pont à tréteaux. Luc vit passer des wagons portant l'inscription « New England Express, Massachusetts Red », d'autres transportant des voitures, et plusieurs wagons-citernes marqués « Canadian Clean Glass » et « Virginia Utilix ». Il passa sous le pont en levant la main pour se protéger de la suie qui lui dégringola sur la tête. Deux ou trois blocs de mâche-fer tombèrent dans l'eau. Luc reprit la rame et entreprit de diriger la barque vers la rive droite, sur laquelle il aperçut quelques tristes constructions aux fenêtres condamnées par des planches et une grue rouillée qui semblait inutilisée depuis longtemps. La rive était jonchée de papier, de vieux pneus et de bidons. Le train qu'il venait de voir passer ralentissait encore, dans une succession de crissements et de chocs métalliques. Vic Destine, le père de son ami Rolf, affirmait qu'il n'existait pas de moyen de transport aussi sale et bruyant que le chemin de fer. Il disait cela non pas avec dégoût, mais en affichant une certaine satisfaction, ce qui n'étonnait pas les deux garçons. Monsieur Destine était dingue de train. Luc avait presque atteint la fin du parcours établi par Maureen. À présent, il cherchait des marches. Rouge. Pas vraiment rouge, avait précisé Avery. Plus maintenant. D'après Maureen, elles sont plutôt roses. Et quand Luc les avisa, 5 minutes seulement après être passé sous le pont, il constata qu'elles n'étaient même plus roses. S'il restait quelques vestiges de peinture sur les contre-marches, les marches elles-mêmes étaient grises. Elles sortaient de l'eau et montaient jusqu'au quai, une 50aine de mètres plus haut. Il rama dans cette direction et la quille de sa petite embarcation s'échoua sur une des marches immergées. Luc débarqua lentement, aussi ankylosé qu'un vieillard. Il envisagea d'amarrer le SS Poki. Les plaques de rouille arrachées au poteau des deux côtés des marches indiquaient que d'autres avant lui, des pêcheurs probablement, l'avaient fait. Mais la corde attachée à l'avant ne lui parut pas assez longue. Il abandonna la barque et la regarda dériver, emportée par le faible courant. Et soudain, il vit ses baskets et les chaussettes fourrées à l'intérieur sur le siège arrière. Agenouillé sur la marche immergée, il parvint à rattraper la barque juste à temps. Il la tira vers lui, une main après l'autre, jusqu'à ce qu'il puisse récupérer ses baskets. « Merci, Poki, » murmura-t-il. Et il relâcha la petite embarcation. Il gravit 2 ou 3 marches et s'assit pour enfiler ses chaussures. Elles étaient presque sèches, mais lui était trempé. Rire lui faisait mal dans le dos à cause de ses égratignures, mais il rit quand même. Il escalada les marches jadis rouges, s'arrêtant de temps à autre pour reposer ses jambes fatiguées. L'écharpe de Maureen nouée autour de sa taille, dans la lumière du petit matin, il constata qu'elle était mauve, s'était desserrée. Après avoir envisagé de la laisser là, il refit le nœud plus solidement. Il ne voyait pas comment il pouvait le suivre jusqu'ici, mais cette ville était une destination logique, et il ne voulait laisser derrière lui aucun repère qu'il pourrait découvrir, même fortuitement. En outre, cette écharpe lui semblait importante désormais. Elle était devenue... Il cherchait le mot approprié. Ce n'était pas un porte-bonheur, c'était un talisman, car elle venait de Maureen, sa sauveuse. Le temps qu'il atteigne le haut de l'escalier, le soleil était apparu à l'horizon, énorme et rouge, baignant d'une lueur vive un entrelac de voies ferrées. Le train de marchandises qui était passé au-dessus de lui était maintenant immobilisé à la gare de triage de Denison River Bend. Alors que la locomotive qu'il avait tractée s'éloignait lentement, une locomotive de manœuvre jaune vif vint s'amarrer à l'arrière du train. Bientôt, elle le pousserait jusqu'à l'endroit où les attelages étaient démaillés et réassemblés. Les secrets du transport de marchandises ne lui avaient pas été enseignés à la Broderick School, où les professeurs s'intéressaient à des matières plus ésotériques, comme les mathématiques avancées, la climatologie et les poètes anglais. Il devait ses connaissances ferroviaires à Vic Destine, fondu des trains et fier possesseur d'un gigantesque réseau miniature lyonnais dans le sous-sol de sa maison. Luc et Rolf y avaient passé d'innombrables heures, tenant le rôle de ses assistants bénévoles. Rolf aimait surtout faire rouler les modèles réduits. Les informations sur les vrais trains l'intéressaient moins. Luc, lui, aimait les deux. En vérité, si Vic Destine avait été philatéliste, Luc aurait porté le même intérêt à ses incursions dans l'univers des timbres. C'était dans sa nature. Il devinait que cela lui conférait un petit côté inquiétant. Plusieurs fois, il avait surpris Alicia Destine en train de le regarder d'une manière qui le laissait entendre. Mais présentement, il bénissait les exposés passionnés de M. Destine. Maureen, à l'inverse, ne connaissait rien au train. Elle savait juste que Denison River Bend possédait une gare et croyait que tous les trains qui y passaient se rendaient ensuite dans toutes sortes d'endroits. Lesquels, elle n'en avait pas la moindre idée.
Elle pense que si tu arrives jusque-là, tu pourras peut-être sauter dans un train de marchandises, avait dit Avery. Eh bien, il était arrivé jusque-là.
Quant à savoir s'il pouvait sauter à bord d'un train de marchandises, c'était une autre histoire. Dans les films, ça semblait facile, mais la plupart des films racontaient n'importe quoi. Peut-être valait-il mieux marcher jusqu'à ce qui faisait office de centre-ville dans ce bled du Nord, trouver le poste de police, s'il y en avait un, ou à défaut appeler la police d'État. Mais comment ? Il n'avait pas de portable, et les cabines téléphoniques étaient une espèce en voie d'extinction. Et même s'il en trouvait une, que mettrait-il dans l'appareil ? Un jeton de l'Institut ? Sans doute pourrait-il appeler le 911 gratuitement, mais était-ce judicieux ? Quelque chose lui disait que non. Luc resta où il était, triturant nerveusement l'écharpe nouée autour de sa taille, alors que le jour se levait beaucoup trop vite à son goût. Appeler la police si près de l'Institut présentait des inconvénients qu'il n'ignorait pas, malgré sa peur et sa fatigue. La police découvrirait rapidement que ses parents avaient été assassinés et qu'il était le principal suspect. Autre inconvénient, Denison River Bend. Ces villes existaient grâce à l'argent investi, c'était leur élément vital. Et d'où venait l'argent à Denison River Bend ? Non pas de cette gare, sans doute largement automatisée, ni de ces sinistres bâtiments qu'il avait vus en arrivant. Sans doute des usines autrefois, mais plus maintenant. En revanche, il y avait quelque part dans les environs une sorte d'installation, un truc du gouvernement, diraient les gens du coin en échangeant un hochement de tête entendu chez le coiffeur ou sur la place principale. Et les gens qui y travaillaient avaient de l'argent. Ces hommes et ces femmes venaient en ville, et pas uniquement au bar, les soirs où se produisait un groupe qui envoyait du lourd. Ils apportaient des dollars. Et peut-être que l'Institut contribuait au bien-être de la ville. Il avait peut-être financé un centre d'animation ou un terrain de sport, ou bien il participait à l'entretien des routes. Dès lors, tout ce qui mettait en danger ces dollars serait considéré avec scepticisme et désapprobation. Si ça se trouve, les fonctionnaires municipaux touchaient des pots de vin pour veiller à ce que l'Institut n'attire pas l'attention de personnes indésirables. Était-ce de la parano de sa part ? Peut-être, peut-être pas. Luc brûlait d'envie de dénoncer Madame Sixby et ses sbires, mais dans l'immédiat, il lui semblait préférable, plus sûr, de s'éloigner rapidement de l'Institut. La locomotive de manœuvre poussait la ribambelle de wagons de marchandises vers le haut de la pente qu'on appelait la butte ou la bosse. Deux rocking chairs étaient disposées côte à côte sur la terrasse du minuscule bureau de la gare. Dans un des deux était assis un homme portant un jean et des bottes en caoutchouc rouge vif, qui lisait son journal en buvant du café. Quand le chauffeur de la locomotive fit rugir son klaxon, l'homme posa son journal et descendit les marches du perron au petit trot, s'arrêtant pour faire un signe de la main en direction d'une cabine vitrée reposant sur des pilotis en acier. Un type installé à l'intérieur lui répondit de la même manière. L'aiguilleur, sans doute. L'homme aux bottes rouges était certainement le démailleur. Le père de Rolf se lamentait sur l'état moribond du chemin de fer en Amérique, et Luc comprenait pourquoi maintenant.
Des voix partaient dans toutes les directions, mais 4 ou 5 seulement semblaient opérationnelles. Les autres étaient tachetées de rouille, des mauvaises herbes poussaient entre les traverses. Sur certaines étaient échoués des wagons couverts et plats, derrière lesquels se cacha Luc pour avancer jusqu'au bureau. Une planchette à pinces pendait à un clou sur un des piliers de la terrasse. Si c'était les horaires des trains du jour, ça l'intéressait. Accroupi derrière un wagon abandonné, près de l'arrière de la tour de triage, il regarda par en dessous le démailleur se diriger vers la butte. Le chargement qui venait d'arriver était au sommet maintenant, requérant toute l'attention de l'aiguilleur. Si Luc se faisait repérer, sans doute le prendrait-on pour un dingue de train, comme M. Destine. Mais rares étaient les gamins qui venaient admirer les trains à 5 heures du matin, aussi mordus fussent-ils. Surtout des gamins trempés de la tête aux pieds, à qui il manquait un bout d'oreille. Il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il sache ce qui était écrit sur cette feuille. M. Botte-Rouge s'avança au moment où le premier wagon passa lentement devant lui et tira sur la manille d'attelage qui le rattachait au suivant. Le wagon, qui portait l'inscription « Produit de l'État du Maine » sur le côté, en lettres bleues, blanches et rouges, dévala la pente, emportée par la pesanteur, contrôlée cependant par les enrayeurs équipés de radars. L'aiguilleur actionna un levier et le wagon fut dévié vers la voie 4. Luc contourna le wagon et marcha tranquillement vers le bureau, les mains dans les poches. Il ne respira librement qu'une fois sous la tour, hors du champ de vision de l'aiguilleur. « S'il fait correctement son travail, se dit-il, il est concentré sur sa tâche. Il ne regarde pas ailleurs. » Le wagon suivant, une citerne, fut envoyé sur la voie 3, ainsi que 2 wagons transportant des voitures, qui s'entrechoquèrent avec fracas. Si les trains miniatures de Vic Destine étaient relativement silencieux, il régnait ici une véritable cacophonie. Luc devinait que les personnes habitant à moins de 2 kilomètres à la ronde avaient les tympans brisés 3 ou 4 fois par jour. Peut-être finissait-elle par s'y habituer. Il avait du mal à le concevoir, jusqu'à ce qu'il repense aux enfants qui vivaient quotidiennement à l'Institut. Ils se goinfraient à la cantine, buvaient des boissons alcoolisées, fumaient une cigarette de temps en temps, faisaient les fous sur les terrains de jeu et couraient dans les couloirs le soir en braillant comme des fous. Luc se disait que ses enfants pouvaient s'habituer à n'importe quoi. Une idée effroyable. Il atteignit la porte du bureau. Le démailleur lui tournait le dos et Luc ne craignait pas de le voir se retourner. « Si vous vous déconcentrez dans ce genre de travail, vous risquez d'y laisser une main », avait dit M. Destine un jour aux 2 garçons. La feuille fixée sur la planchette à pince n'indiquait pas grand-chose. Les colonnes correspondant aux voies 2 et 5 ne contenaient que ces 3 mots, rien de prévu. La voie 1 accueillait un train de marchandises à destination du New Brunswick au Canada. Départ 17 heures. Ça ne l'intéressait pas. Le train de la voie 4 partait pour Burlington et Montréal à 14h30. C'était déjà mieux, mais ce n'était pas encore l'idéal. S'il était encore là à 14h30, il risquait d'avoir de gros ennuis. La voie 3, sur laquelle l'aiguilleur envoyait maintenant le wagon New England Express que Luc avait vu traverser le pont, semblait un meilleur choix. L'heure limite au-delà de laquelle le chef de station ne pouvait plus, théoriquement, accepter un nouveau chargement pour le train 4297 était 9h. Et à 10h, le train devait quitter Denison River Bend pour Portland ME, Portsmouth NH et Sturbridge MA. Cette dernière ville se trouvait au moins à 400 kilomètres. Peut-être même beaucoup plus. Luc retourna se cacher derrière le wagon et regarda les autres dévaler la butte vers différentes voies. Certains allaient rejoindre des trains qui partaient aujourd'hui, tandis que d'autres resteraient sur diverses voies de garage jusqu'à ce qu'on ait besoin d'eux. Le démailleur ayant terminé son travail, il grimpa sur le marchepied de la locomotive de manœuvre pour parler au conducteur. L'aiguilleur descendit de sa cabine pour les rejoindre. Il y eut des éclats de rire, qui flottèrent sans peine jusqu'aux oreilles de Luc dans l'air calme du matin. Il aimait ce son. Il avait entendu beaucoup d'adultes rire dans la salle de repos du niveau C, mais ce son lui paraissait sinistre, comme les rires des orques dans une histoire de Tolkien. Ces rires, à l'inverse, émanaient de braves types qui n'avaient jamais enfermé d'enfants et ne leur avaient jamais enfoncé la tête dans un caisson. C'étaient les rires de personnes qui ne trimbalaient pas à la ceinture des matraques électriques. Le conducteur de la locomotive tendit un sac par la vitre. Le démailleur le prit et sauta du marchepied. Tandis que la locomotive descendait lentement la butte, le démailleur et l'aiguilleur piochèrent chacun un donut dans le sac. Les gros,
saupoudrée de sucre et sans doute fourrée à la confiture. L'estomac de Luc grogna. Les deux hommes s'assirent dans les rocking chairs sur la terrasse pour déguster leurs donuts. Pendant ce temps, Luc reporta son attention sur les wagons qui attendaient voie 3. Il y en avait 12 au total, dont la moitié découverts. Pas suffisant sans doute pour constituer un train à destination du Massachusetts, mais d'autres wagons provenant de la gare de triage allaient peut-être les rejoindre. Une cinquantaine, au moins, patientait là-bas. Soudain, un semi-remorque fit son apparition et traversa plusieurs voies en tressautant jusqu'au wagon produit de l'état du Maine. Il fut suivi d'une fourgonnette, de laquelle descendirent plusieurs hommes qui entreprirent de transférer des tonneaux du wagon au semi-remorque. Luc les entendait parler en espagnol et il parvint à saisir quelques mots. Un des tonneaux se renversa, laissant échapper des pommes de terre, ce qui provoqua des rires et un bref combat de patates. Luc les observait avec envie. L'aiguilleur et le démailleur assistèrent à la bataille depuis leur fauteuil avant de disparaître à l'intérieur. Le semi-remorque repartit, chargé maintenant de pommes de terre destinées à McDonald's ou à Burger King. La fourgonnette lui emboîta le pas. La gare de triage se retrouva déserte. Cela n'allait sans doute pas durer. Il y aurait d'autres opérations de chargement et de déchargement, et le conducteur de la locomotive devrait peut-être ajouter d'autres wagons au train de marchandises qui partait à 10 heures. Luc décida de tenter sa chance. Il jaillit de derrière le wagon, mais revint précipitamment sur ses pas en voyant le conducteur de la locomotive gravir à pied la butte, un téléphone collé à l'oreille. L'homme s'arrêta et Luc craignit d'avoir été vu, mais apparemment l'homme concluait seulement son appel. Il rangea son portable dans la poche frontale de sa salopette et passa devant le wagon derrière lequel se tairait Luc sans même tourner la tête. Il gravit les marches du perron et entra à son tour dans le bureau. Luc ne perdit pas une seconde. Il dévala la pente sans se soucier de la douleur dans son dos et de ses jambes fatiguées, sautant par-dessus les rails et les enrayeurs, contournant les capteurs de vitesse. Parmi ceux qui attendaient d'effectuer le voyage Portland-Portsmouth-Sturbridge, un wagon rouge portait la mention Southway Express sur le côté, à peine visible sous les graffitis accumulés au cours de ses années de service. Il était crasseux et strictement utilitaire, mais il présentait un intérêt indéniable. La porte coulissante n'était pas entièrement fermée. L'ouverture était peut-être suffisante pour laisser passer un jeune garçon maigrelet aux abois. Luc saisit une poignée rouillée et se hissa jusqu'à l'ouverture. Oui, elle était assez large. Plus large, à vrai dire, que le passage qu'il avait creusé sous le grillage de l'Institut. Cela lui semblait très loin, presque dans une autre vie. Le montant de la porte érafla son dos et ses fesses déjà meurtries, mais il parvint à se faufiler. Le wagon était aux trois quarts plein, et si, vu de l'extérieur, il ne payait pas de mine, l'intérieur sentait bon le bois, la peinture et l'huile de moteur. Il y avait là un bric-à-brac qui lui rappela le grenier de sa tante Lessie, à cette différence près qu'elle y entreposait des vieilles choses, alors que tout ce qui l'entourait était neuf. Sur la gauche, il identifia des tondeuses, des débroussailleuses, des souffleurs de feuilles, des tronçonneuses et des caisses contenant des pièces détachées pour automobiles et des moteurs hors bord. À droite, il y avait des meubles, certains emballés dans des cartons, mais la plupart momifiés sous des mètres et des mètres de fines plastiques. Dans un coin se dressait une pyramide de lampadaires couchés, enveloppés de papier bulle et scotchés par trois. Il aperçut également des chaises, des tables, des causeuses et même des canapés. Luc s'avança vers l'un d'eux, proche de la porte entrouverte, pour examiner la facture scotchée sur le papier bulle. Ce canapé, et les autres meubles sans doute, devait être livré au magasin d'ameublement Bender et Bowen de Sturbridge, Massachusetts. Luc sourit. Le train 4297 perdrait peut-être quelques wagons en chemin à Portland et à Portsmouth, mais celui-ci irait jusqu'au terminus. La chance ne l'avait pas abandonné. Il y a quelqu'un là-haut qui m'aime, murmura-t-il. Il se souvint alors que sa mère et son père étaient morts, et il pensa, mais pas énormément. En écartant de la paroi du fond quelques cartons de chez Bender et Bowen, il découvrit avec ravissement, juste derrière, un empilement de protection en mousse. Elle sentait l'humidité, pas le moisi. Il se faufila dans cet espace étroit et remit les cartons en place le mieux possible. Enfin, il était dans un endroit relativement sûr. Il pouvait s'allonger sur un tapis de mousse.
Il était épuisé, pas uniquement à cause de cette évasion nocturne, mais de toutes ces journées de repos interrompus, de peur grandissante qui l'avaient finalement conduit à s'enfuir. Néanmoins, il n'osait pas s'endormir. Il finit par s'assoupir malgré tout. Il fut réveillé par le vacarme de la locomotive qui approchait, et le wagon Southway Express s'ébranla brutalement. Luc se leva pour aller jeter un coup d'œil par l'ouverture. Il vit passer la gare de triage. Puis le wagon pila net, manquant de le projeter au sol. Un crissement métallique lui fit supposer qu'on attelait son wagon à un autre. Au cours de l'heure qui suivit, il y eut d'autres chocs, d'autres secousses, tandis que venaient s'ajouter les wagons qui formeraient bientôt le train 4297 à destination du sud de la Nouvelle-Angleterre, loin de l'Institut. Loin, 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 pensa Luc. À plusieurs reprises, et une fois tout à côté de lui, il entendit des hommes parler, mais le vacarme l'empêchait d'entendre ce qu'ils disaient. Luc tendait l'oreille en se rongeant les ongles, déjà rognés jusqu'au sang. Et s'il parlait de lui ? Il repensa au conducteur de la locomotive qui jacassait dans son portable. Et si Maureen avait craché le morceau ? S'ils avaient découvert sa disparition ? Et si un des sbires de Madame Sixby, Stackhouse vraisemblablement, avait appelé la gare de triage pour demander à l'aiguilleur de fouiller tous les wagons en partance ? Dans ce cas, l'homme commencerait-il par les wagons dont les portes étaient entr'ouvertes ? Est-ce que le pape est catholique ? Puis les voix s'éloignèrent et moururent. Les chocs et les déplacements brutaux se poursuivirent à mesure que le train 4297 accueillait de nouveaux wagons. À l'extérieur, des véhicules allaient et venaient. Des coups de klaxon se faisaient entendre. Luc sursautait chaque fois. Il aurait donné cher pour savoir quelle heure il était. Il ne pouvait faire qu'une seule chose. Patienter. Après une attente qui parut une éternité, les chocs cessèrent. Il ne se passa plus rien. Luc recommença à sombrer dans le sommeil. Il s'était presque endormi lorsque se produisit un choc encore plus violent que les précédents. Il se retrouva projeté sur le côté. Après une pause, le train se remit en branle. Luc s'extirpa de sa cachette et s'approcha de la porte entr'ouverte, juste à temps pour voir passer le bâtiment peint en vert qui abritait le bureau. Le démailleur et l'aiguilleur avaient retrouvé leur rocking chair. Chacun tenait une partie de journal. Le 4297 franchit un ultime embranchement et passa devant un autre groupe de bâtiments abandonnés. Vinrent ensuite un terrain de baseball envahi par les mauvaises herbes, un dépotoir et deux terrains vagues, puis un parc pour caravanes où jouaient des enfants. Quelques minutes plus tard, Luc se retrouva en train de contempler le centre de Denison River Bend. Il apercevait des boutiques, des lampadaires, des places de stationnement en épi, des trottoirs, une station-service Shell. Un pick-up blanc et sale attendait que le train soit passé. À ses yeux, tout cela était aussi incroyable que le spectacle des étoiles au-dessus de la rivière. Il était dehors. Il n'y avait plus de technicien, plus d'intendant, plus de machine à jetons qui proposait aux enfants de l'alcool et des cigarettes. Quand le train négocia un léger virage, Luc dut prendre appui contre la paroi du wagon des deux mains, jambes écartées. Trop fatigué pour lever les pieds, il se contenta de ce piètre pas de danse pour célébrer sa victoire.